Bonjour et bienvenue au balado officiel du Festival Regard. Je m'appelle Nicky Lamontagne, responsable des projets spéciaux au Festival, membre du comité de sélection et animateur de cette série de balados. Cette année, on vous propose 6 rencontres entre cinéastes qui viendront discuter de cinéma, de courts-métrages et des enjeux de société qu'elles explorent à travers leurs œuvres. On remercie Balado Boréal pour toute l'aide fournie dans l'élaboration et la réalisation de ce projet, ainsi que le Bureau du cinéma de Saguenay pour son soutien. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, on reçoit Vincent René Lortie, scénariste et réalisateur du film Invincible. Le film a remporté le prix spécial du jury international à la dernière édition du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand et le prix du meilleur court-métrage de fiction au Rendez-vous Québec Cinéma, notamment. Bonjour, Vincent.
Bonjour, bonjour.
On reçoit aussi Philippe Berthelet, scénariste, réalisateur et coproducteur du film À la Fontaine. Le film est présenté en première mondiale à Regard dans la compétition Tournée à tout prix, qui réunit des œuvres qui ont été faites sans aide financière du milieu. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci les gars d'avoir accepté l'invitation à Regard le balado. On va jaser un peu de vos films aujourd'hui, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ben, j'aimerais en savoir un peu plus sur la raison de votre présence ici. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aimerais savoir un peu ce qui vous a donné le goût de vous diriger dans le fabuleux monde du cinéma. Vincent, peut-être pour commencer, comment t'es tombé là-dedans?
Je crois que comme beaucoup de monde qui sont au cinéma, c'est quelque chose qui faisait vraiment partie de mon enfance, toute ma vie. J'écoutais des films avec ma famille. Tous les soirs, on avait, c'est drôle, mais nous, avant très longtemps, on n'avait même pas de Wi-Fi à la maison. C'était juste comme on écoutait des films, puis c'était un peu l'activité familiale. Donc, c'est sûr, ça a fait partie de mon quotidien. Puis ensuite, il y avait une autre passion. Moi, j'avais une autre passion, c'était vraiment d'écouter des séries. J'écoutais des séries constamment. Puis lorsque je suis arrivé au cégep, j'ai pris la décision d'aller en télévision à l'UQAM. Puis ça a été un peu un... En fait, j'ai réalisé que la télévision, c'est... En fait, ce qu'on enseignait à l'UQAM, c'est un très beau programme, mais c'était vraiment plus les studios de TV, c'était plus les quiz, un téléjournal, par exemple. Mais moi, ce que je voulais vraiment faire, c'était du cinéma. Donc, j'ai décidé de prendre la décision d'aller à Concordia. Mais à partir de ce moment-là, je faisais déjà pas mal des petits courts-métrages. Tu sais, j'en ai fait à l'UQAM, j'en faisais avec des amis, puis j'ai continué à en faire à Concordia. Je pense que c'est la seule chose que je suis vraiment capable de faire aujourd'hui. En fait, moi, j'ai toujours dit que si un jour ma carrière de cinéaste ne fonctionnait pas, j'allais devenir infirmier. Donc, c'est okay. Soit un ou l'autre. Mais oui, c'est là que t'sais, donc j'ai pas un moment précis dans ma vie que là, je me suis dit je veux faire du cinéma. Je pense que c'est quelque chose, c'est une passion qui a grandi lentement.
OK. Mais là, on a besoin d'infirmiers par contre. Fait que là, on dirait que je me sens un peu mal, mais je te souhaite quand même de continuer d'avoir du succès en cinéma. Mais Philippe, de ton côté, comment t'es tombé en amour avec le cinéma?
Ouais, personnellement, j'ai pas trop grandi dans une famille de cinéma, je dirais. J'ai regardé beaucoup Madagascar quand j'étais petit, okay. Shrek et ce genre de film. Mais c'est plus... moi, je pensais que j'allais être journaliste pendant longtemps. Mm-hmm. Puis quand je me suis rendu au cégep, j'étais dans un programme qui était comme hors lettres, comme média, mais avec aussi un petit peu de cinéma. Fait que c'est là que j'ai un peu eu une introduction à l'histoire du cinéma. Puis j'ai vu un peu des gens qui étaient passés par mon cégep à Concordia, qui avaient vraiment beaucoup de fun, qui faisaient des projets intéressants. Puis je voyais qu'il y avait un petit peu au Québec un gros potentiel pour faire une carrière en cinéma. C'est un des endroits que le financement est le meilleur. Puis on a vraiment beaucoup de support. Je trouvais que ça pouvait être intéressant de me lancer là-dedans. Fait que j'ai fait un petit projet au cégep, un mini court-métrage comme pour avoir un portfolio pour Concordia. Puis c'est en créant ce projet-là, puis en faisant du montage, que j'ai vraiment réalisé qu'il y avait quelque chose qui se passait. Puis que j'entrais dans un petit flow quand je faisais du montage. Puis quand j'écrivais, fait que c'est un peu là que j'ai eu la piqûre. Fait que j'ai pas vraiment eu la piqûre. Beaucoup de gens ont la piqûre très jeune, ouais, puis qui grandissent en regardant des films, mais moi, c'était plus tard. Okay. Puis dès ma première année à Concordia, malgré la COVID, j'ai eu beaucoup de cours d'histoire du cinéma, puis je suis vraiment, c'est là que je tombe en amour avec, avec le langage un peu, puis toute la grammaire qu'on peut appliquer au cinéma. Là.
OK, cool. Ben justement, vous avez tous les deux fait vos études à l'Université de Concordia.
Et au Collège Mont-Saint-Louis aussi. Il faut parler du Collège Mont-Saint-Louis quand même.
Ben, vous pourrez peut-être décortiquer ça un peu pour nous, mais une grande partie des cinéastes, justement, qui passent par Regard sont passés par une université ou un autre programme. Puis je suis curieux de savoir c'est quoi l'influence d'un parcours à l'université comme ça, ben, dans votre parcours professionnel, en fait. Pourquoi, tu sais, c'est important d'aller à l'université, à votre avis?
Ben, je serais curieux de t'entendre parler aussi là-dessus, mais de mon côté, je pense que l'université, ce que ça m'a permis, c'est vraiment de me créer des relations, de créer des amis avec qui aujourd'hui je fais des films. C'est sûr qu'il y a eu des professeurs qui m'ont vraiment marqué, des professeurs qui ont beaucoup influencé ma manière de travailler. Puis on peut en parler aussi, c'est parce qu'on a fait le même programme, puis j'imagine que les professeurs ont beaucoup changé depuis. Donc. Mais moi, à la base, c'était les amis avec, par exemple, Alexandre Nour qui a fait la direction de photo d'Invincible. C'est lui qui a fait la direction photo de presque tous mes projets depuis. Simon Boissonneau qui fait la colorisation. Puis Samuel Carreau qui est producteur. Puis lui, bon, c'était comme le coloc à Alex. Bref. Mais c'était comme... Aujourd'hui, c'est un peu ma famille. Puis pour moi, je remercie l'université pour ça. Puis aussi, c'est faire des films. L'université, c'est faire des films avec très peu d'argent. Mais tu sais... C'est niaiseux, mais on a une équipe gratuite. Fait que ça, c'est déjà énorme. On a l'équipement gratuitement. Puis ensuite, ben on a généralement une carte blanche pour faire un film qui nous parle. Puis tu sais, toi, ton film, je pense que tu l'as fait dans ta deuxième année, c'est ça?
Je l'ai fait entre ma deuxième et ma troisième année. C'était pas un film qui était vraiment associé à l'école.
C'était pas un film? OK. Dans tous les cas, c'est vraiment impressionnant, mais c'est fou quand même les films qui sortent de l'université à Concordia ou à l'UQAM, puis dans d'autres universités à travers le monde. C'est vraiment impressionnant. Puis toi, c'est ça, je serais curieux un peu de voir qu'est-ce que tu as appris.
Ben moi aussi, également, là, le cercle de personnes que tu peux rencontrer là-bas. Moi, je pense que je suis rentré un peu de justesse à Concordia, côté Cotter et tout cela.
OK.
Puis aussi, juste en termes de connaissances cinéma, j'avais vraiment l'impression que je rentrais dans un espace qui était rempli de cinéphiles puis de gens qui se voyaient à Concordia ou se voyaient dans une école de cinéma depuis vraiment longtemps. Puis dès les premiers cours, j'ai vraiment réalisé que telle personne sont vraiment doués, sont vraiment talentueux, ils ont l'air vraiment cool. Fait que c'est un peu dès les premiers moments, tu réalises un peu c'est qui les personnes avec qui tu veux apprendre. Fait que moi aussi, c'est un peu la même chose. J'ai quelques personnes dès la première année qu'on s'est un petit peu linkés ensemble. Puis il y a Nicolas Tadros, entre autres, qui a fait la colo sur le film et qui était aussi éclairagiste, puis là, qui fait la DP sur un documentaire que je fais. Plein d'amis. J'ai aussi des amis du cégep qui sont maintenant à l'UQAM, on a un peu comme créé notre cercle ensemble. Fait que je dirais que le cercle, c'est important. Mais aussi, c'est ça, dans les profs, j'ai vraiment apprécié la variété de milieux dont les profs viennent, puis la variété d'un peu de leur type de projet qu'ils font en deuxième année. On a un peu comme un cours où on fait des films par année, en Concordia, comment ça marche. En deuxième année, j'ai eu une prof qui faisait de la fiction, qui était vraiment axée sur la fiction. Puis maintenant, j'ai un prof qui est plus un documentariste expérimental. Fait que c'est juste d'avoir comme des perceptions puis des visions du cinéma vraiment différentes. Okay. C'est bon un peu pour t'aider à shaper ta propre un peu vision du cinéma.
Mais ouais, les rencontres, c'est sûr que ça aide. Je pense que dans plusieurs domaines, c'est ça. Mais en cinéma, tu sais, en tant que cinéaste, il faut savoir bien s'entourer. Fait que c'est le fun si l'université peut vous offrir ça.
Je pense que c'est pour moi, ça a été majoritairement ça. C'est comme... c'est un peu comme toi, tu rentres en classe, puis tu fais à qui, avec qui tu penses juste créer une amitié à la base, tu sais, puis... Puis, tu sais, ça dure une vie, ça. Puis des fois, je trouve ça... Tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui ont pas fait l'université aussi. Puis des fois, tu sais, je vois que c'est un peu la difficulté qu'ils vont avoir à, comme, créer des relations. Parce que c'est pas toujours facile, parce que souvent, c'est des cercles aussi. Tu sais, ces gens-là, ils sortent de l'université, ça fait 3 ans qu'ils travaillent ensemble. Puis, bref. Mais, ouais, c'est ça.
Philippe, je t'écoutais parler. Est-ce que tu as fini tes cours à l'université ou tu es encore
là? Non, je n'ai pas fini. Je suis en troisième année. J'ai 21, fait que
un peu jeune. Je pose la question parce que dans ton film, bon, tu diriges quand même des acteurs de la trempe de Paul Doucet, Sarah Monpetit aussi. Comment tu as réussi à avoir ce casting-là? Puis c'était quoi pour toi de diriger ces comédiens?
C'était vraiment un gros privilège. Je suis très chanceux. Paul Doucet, c'est assez drôle. Là. En fait, j'ai fait un film en première année durant l'ère de la COVID, tout seul, que j'étais comme DP sur la caméra avec une actrice. Puis tourné avec une petite caméra Super 8. Puis Paul Doucet était ami Facebook avec mon père, je pense, parce qu'il était allé au cégep ensemble. Puis mon père a partagé le film, puis Paul était comme « Ah, oh, c'est chouette ». Fait que là, j'ai juste vu le commentaire de Paul, puis j'étais comme « Ok, intéressant, je vais peut-être essayer de pousser ma luck si j'ai un scénario un jour ». Fait que j'ai envoyé le scénario au mois de mai, puis c'est ça, on a essayé de faire. C'était vraiment aussi une question d'entrer sur l'horaire de ces personnes-là. Mm-hmm. Fait que c'était en commençant par Paul, puis Sarah... C'est ça, on a encore été vraiment, vraiment chanceux. C'était juste une question qu'on envoyait le scénario à son agence, puis elle voulait juste aller prendre un café, puis parler de l'histoire, puis parler du personnage. Fait que ça, j'ai été chanceux parce que c'est quelqu'un qui est assez sélectif de ses projets. Mm-hmm. Elle a fait deux features à date. Elle a travaillé sur un troisième long. Je pense que j'étais son premier court-métrage. Là. Fait que vraiment, vraiment très chanceux. Puis on a développé une super belle amitié, puis une super belle collaboration. Mm-hmm. Fait que oui, j'ai été très chanceux. Puis... Sinon, pour venir au Mont-Saint-Louis, vite.
Oui.
la directrice dans La Fontaine est incarnée par Annie Derèche, que je ne sais pas si tu as pris des cours d'art dramatique ou
Mont-Saint-Louis. Moi, ça fait longtemps.
Ça fait longtemps.
Si tu as 21 ans, moi, j'en ai 30, donc ça veut dire que ça fait 9 ans de différence. Ouais. Non, je ne sais plus qui était ma prof d'art dramatique, malheureusement, mais ce n'était pas elle.
Parce que c'est ça, c'était la directrice, Mme Vandal. Dans le film, c'était ma prof d'art drame au secondaire.
Okay.
C'est une petite coïncidence un peu. Fait que non, c'est ça. C'était un challenge, puis c'était beaucoup. J'ai pas énormément de confiance encore en mes talents de direction mm-hmm. d'acteur. Fait que c'était beaucoup d'apprendre on the fly un peu avec Sarah et Paul. Mais les deux ont été tellement professionnels puis tellement patients sur le plateau. On était un plateau qui était un peu bilingue. C'est tout un peu des étudiants, fait qu'ils étaient très patients pour vraiment nous laisser faire ce qu'on avait à faire. Puis c'est aussi, j'ai été très chanceux d'avoir une first AD qui était vraiment efficace pour pas qu'aucune de ces personnes-là fasse du overtime.
Ouais, ouais.
Puis qu'on ait à payer un petit peu beaucoup d'argent. Ouais. Alors ça a été très important. Mais non, ça, c'est vraiment, vraiment un honneur. Puis c'est ça, je réalise vraiment que c'est pas tout le monde qui peut faire leur premier film avec un casting comme ça.
C'est une chance, puis tu t'en sors très bien. Laisse-moi te le dire.
Merci. Je suis curieux de savoir un peu comment t'as travaillé justement avec eux. Est-ce que c'était ton premier film où tu dirigeais des acteurs?
Ouais, okay. Ouais, c'était mon premier. Mais c'est parce qu'on avait parlé ça a concordé un peu. Puis moi, j'ai pitché un film en deuxième année pour la réalisation. Puis c'était un scénario complètement différent, puis j'ai pas été pris. Mm-hmm. Fait que ça m'a un petit peu ça m'a un petit peu allumé un petit feu. Ouais. J'étais un petit peu fâché. Fait que je me suis dit que je voulais vraiment faire un film au plus vite possible un peu. Puis c'est pour ça qu'on l'a vraiment tourné. J'ai commencé à l'écrire au mois d'avril, puis on l'a tourné au mois de juillet en 2022. Puis c'est ça. Puis travailler avec eux, pour la direction d'acteur, j'avais eu un peu de cours, puis on en avait un petit peu parlé à l'école, puis j'avais été sur des plateaux, fait que j'avais vu un petit peu quoi faire, quoi pas faire. Mais j'essayais vraiment d'y aller avec les instincts aussi. Puis je pense que c'est mm-hmm. ça que tu dois faire quand tu sais pas trop. Tu fais qu'est-ce qui feel right un peu pour toi. Puis dans mon cas, c'était de laisser aller, puis de laisser Sarah essayer des choses. Puis Sarah, c'est la genre d'actrice qui veut tout le temps faire une autre prise, puis qui veut tout le temps essayer des choses. Fait que ça, c'était vraiment super d'avoir ça. Il n'y avait pas vraiment d'acteurs capricieux sur le plateau. Fait que j'ai été chanceux là-dessus. Puis Paul aussi, c'est la même chose. C'était juste d'être très patient avec les AC, puis d'être comme, OK, est-ce que c'est correct ma marque en ce moment? Puis il parlait en anglais à du monde qui ne parlait pas français. Puis juste d'être super. Fait que c'est vraiment ça.
T'as eu de l'aide beaucoup, aussi.
Beaucoup d'aide, beaucoup de patience. Fait que ça, je suis très chanceux sur tous les plans. Là. Mm-hmm.
J'aimerais qu'on plonge un peu plus dans vos films maintenant, sur les histoires peut-être qui ont inspiré Invincible et À la Fontaine, parce que vous êtes tous les deux inspirés de faits vécus. pour faire ces films-là. Vincent, tu as porté le projet pendant 3 ans, je crois. Un projet que tu as développé pour honorer la mémoire d'un de tes amis d'enfance. J'aimerais peut-être t'entendre plus là-dessus.
Oui, ça a été... J'ai eu cette idée-là il y a 5 ans environ. Puis, tu sais, l'idée, en fait, c'était à la base... Je voulais raconter quelque chose, une histoire personnelle, puis je sais que ça, c'est évidemment, c'est quelque chose qui m'avait marqué à jamais, cette histoire-là, lorsque moi aussi, j'avais 14 ans. Donc, j'ai décidé de juste reprendre un peu, de rencontrer la famille de Marc que j'avais pas vue depuis, à l'époque, ça devait faire, 12 ans environ. Mm-hmm. Donc, je leur ai parlé, puis j'ai parlé aux amis aussi, j'ai essayé d'en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui s'était passé, parce que moi, à l'époque, je pensais que c'était un accident. Puis mm-hmm. en fait, c'était un peu ça qui avait été indiqué dans les médias et tout. Donc, éventuellement, tu sais, rapidement, j'ai compris que c'était plus que ça. C'était peut-être un suicide. Donc, j'ai décidé de faire beaucoup de recherches sur qu'est-ce qui est arrivé. J'ai rencontré des professionnels des professionnels du milieu de la santé, des intervenants, des policiers aussi. Puis c'est ça, puis des gens qui avaient connu Marc et bref, est venu un peu l'idée de faire un film sur les 48 heures qui ont comme précédé son décès. Mm-hmm. Et bon, puis 3 ans parce que, un, la recherche, mais aussi c'était très difficile de faire financer ce film-là. Okay. Premièrement, c'est un long film, c'est sûr, c'est pas évident. C'est un film assez classique dans sa manière d'approcher le sujet. Tu sais, j'ai pas essayé de réinventer nécessairement le cinéma avec ce film-là. Puis aussi, parce que c'était mon premier film de fiction depuis l'université. Donc, il y avait comme plein de choses qui passaient. Donc, ça a pris 3 refus et finalement, aux 2 institutions, tu sais, à la SODEC et au CALC, pour ensuite finalement avoir le financement pour le film. Puis, lorsque ça a été fait, la pandémie, bref, donc, tu sais, ça fait longtemps que je tiens ce film-là sur les épaules. Mais je pense que ça a fait en sorte que le film a vraiment maturé, vraiment beaucoup évolué, même depuis le moment où j'ai eu le financement et le moment où je l'ai tourné, c'est devenu un film complètement différent. Je suis sûr que même les institutions étaient comme « Ah, OK. Ah, »
On n'a pas financé ça.
On n'a pas financé ça, mais honnêtement, c'est vraiment pour le mieux, j'en suis certain. Puis oui, c'est un film que j'ai fait à la base pour honorer la mémoire de mon ami. Un film que je voulais le comprendre aussi. Puis je ne sais pas si j'ai nécessairement arrivé à le comprendre à travers ma recherche puis le film, parce que c'est tellement complexe, un jeune de cet âge-là. Mais je pense que le plus beau des cadeaux que je pouvais avoir avec ce film-là, c'était à la fin, c'était le présenter à la famille, aux amis. Puis ça a été vraiment un moment super, un moment vraiment spécial, un moment que je vais me rappeler toute ma vie. Puis
La réception a été bonne à ce moment-là.
Ouais, la réception a vraiment été touchante, a vraiment été bonne. T'sais, j'ai commencé par, je suis allé le présenter chez les parents de Marc. À travers les années, j'ai vraiment bâti une belle relation avec eux et la sœur aussi. Je leur ai présenté chez eux, juste pour avoir vraiment leur réaction. Je voulais pas non plus, ça se fait qu'ils détestent le film, on s'entend. Même, puis je leur avais fait lire le scénario, je leur avais vraiment parlé toutes mes intentions, mais on sait jamais, tu sais. Puis la réaction était vraiment touchante. Pour eux, je pense que c'est comme un peu un hommage à Marc, donc c'était un peu leur réaction. Puis après ça, les amis aussi, c'était vraiment spécial. Eux, ils l'ont vu à la première au FNC. Puis ça a été aussi, on était toute une rangée, assis un à côté de l'autre, puis ils se tenaient la main. C'était comme, tu sais, c'est tous des gars qui ont comme un peu, tu sais...
Une carapace.
Une carapace, puis je pense qu'ils se sont un peu...
Laissé aller.
C'est ça, ils se sont vraiment laissés aller pendant la projection, puis c'était vraiment beau à voir. Fait que c'était... Ouais, fait que tu sais, tout ce qui tu sais, après... c'est le fun, le parcours qu'il y a le film et tout, mais pour moi, c'est ça, c'est qui compte. Puis c'est comme, j'essaie toujours de me rappeler ça puis de revenir à ça aussi. Mm-hmm.
Fait que le reste, les prix, le parcours en festival et tout, ça devient du bonus à ce moment-là.
Ouais, puis honnêtement, je m'attendais pas non plus à ça. Là, c'est parce que ça a été long aussi là, avant que le festival vraiment commence à être sélectionné dans les festivals. Donc, pour moi, c'était comme... J'étais juste heureux d'avoir cette réception-là de la part de la famille. Puis, Puis ouais, tu sais, je serais curieux parce que, tu sais, je ne savais pas du tout c'est quoi ton film, Philippe, à la base, là. Mm-hmm. Puis éventuellement, sans dire trop de spoilers, je ne sais pas à quel point
on peut en parler.
On peut spoiler,
c'est ça. Mais tu sais, éventuellement, ça prend un peu une curveball dans le film. Puis on apprend qu'il y a un enfant qui est décédé, qui s'est enlevé la vie. Je serais curieux un peu d'en savoir un peu plus, parce que je pense que dans la version que j'ai vue, il n'y avait pas nécessairement de mention à la fin. Je ne sais pas si tu as ajouté une mention sur comme cette personne-là, mais mm-hmm. Ouais, je serais curieux d'en savoir un peu plus sur.
Ouais, ben ça, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on raconte un peu les deux bords de la médaille pour ce qui est du suicide puis du suicide jeunesse. Moi, j'avais dans un projet de portfolio au cégep, j'avais essayé d'un peu de parler du sujet plus la perspective de la personne qui s'enlève la vie, mm-hmm. mon ami Félix que j'ai perdu en secondaire 3. Mm-hmm. Mais pour À la Fontaine, je voulais plus un peu parler de l'autre bord, puis parler des gens qui sont encore, qui restent ici, puis qui doivent un peu vivre avec des situations comme ça. Fait que c'est ça, c'est plus pour ça que il y a pas vraiment de mention à la fin, parce que c'est plus un hommage aux victimes du suicide. Mm-hmm. C'est ça pour moi, c'est pas mal beaucoup de faits vécus directement de ma perspective, puis la perspective de gens autour de moi. C'est pas comme biographique, évidemment, mais il y a un peu des éléments de différentes personnes. Pour moi, c'était un mardi matin à l'école, au secondaire, que la directrice est rentrée dans la classe, puis elle nous a fait cette annonce-là. Puis la veille, j'étais à une pratique de hockey avec Félix. Fait que c'était mm-hmm. juste le choc immédiat, qui n'était pas une colère, qui n'était pas une qui était une tristesse, mais qui n'était pas une tristesse viscérale, qui n'était pas nécessairement visible. Puis on sait toutes les gens qui étaient affectés se sont réunis au salon étudiant du Mont-Saint-Louis. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens n'avaient pas vraiment de réaction. Ils étaient un peu figés, ils étaient engourdis. Puis tu t'attendrais pas à ça. Fait que visuellement, c'était un petit peu traumatisant de voir ça, que les gens n'étaient pas comme en grosse larmes ou en grosse colère ou des grosses émotions. C'était comme un chaos de plein d'émotions qui devenait juste un engourdissement. Fait que je trouvais ça intéressant de parler de ça, puis parler des différentes réactions, puis aussi parler du rôle du parent là-dedans, qui n'a pas toujours les codes puis les outils pour aider son enfant là-dedans. Mm-hmm. Dans mon film, la mère fait tout ce qu'elle peut pour essayer de réconforter sa fille, mais elle sait juste pas comment aider, parce qu'elle n'a jamais vécu quelque chose comme ça. Mm. Fait que c'est un petit peu comme l'autre bord de la médaille, je dirais, du suicide, puis vraiment de parler de comment ça peut affecter quelqu'un, puis comment les gens font pour essayer de tirer du positif puis de la beauté un peu dans toute cette tristesse-là.
Mm-hmm. Justement, je pense aussi durant la recherche de mon film, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup réalisé, puis même éventuellement, j'étais comme, est-ce que je devrais plus raconter le point de vue des gens qui ont été autour de Marc, qui ont vécu ça, parce mm-hmm. que c'est beaucoup ça que je recevais aussi comme retour, c'est que c'est un jeune qui s'enlève la vie. C'est l'impact que ça a sur... C'est une espèce de... Tu sais, c'est quand tu lances une roche dans l'eau, c'est toutes les répercussions qu'ils vont mm-hmm. avoir sur les amis, la famille, des gens qui vont vivre un deuil qui va durer des années, puis toute une vie, tu sais, même. Fait que c'est comme... Non, mais tu sais, c'est une super belle approche, puis bravo vraiment pour ton film.
Merci. Puis si je peux rendre la pareille un peu, c'est ça. Moi, j'ai vu le film mercredi, premièrement, sur mon ordi. c'était super, puis j'ai capoté, puis... c'est ça, Alexandre Nour, fabuleux directeur de photo aussi, là. Mais hier, j'ai pu le voir sur le grand écran pour la première fois. Puis c'était vraiment spécial. Puis je devais partir direct après pour aller souper, puisque j'avais fait de la route, puis j'avais pas dîné. Ouais. mais j'ai vu mes amis, puis la rangée d'amis qui étaient à côté de moi étaient toutes visuellement amazed. Ouais. Puis tout le monde s'est suivi des larmes et tout. Fait que ça, j'imagine que c'est comme un peu un signe de succès. Fait que félicitations aussi pour le projet. C'est vraiment, vraiment fabuleux.
C'est ça, Philippe, dans ton film, tu as choisi de ne pas montrer ton ami Félix nécessairement. Mais toi, Vincent, on voit Marc dans le film. Comment t'as choisi d'abord le comédien qui pour le jouer, puis aussi un peu comment t'as construit son récit, parce que les 48 heures avant, tu les inventes un peu, finalement.
Oui. Donc, c'est ça. Ben, Marc, excuse-moi, le personnage qui joue Marc, Léa Kim, c'était... Ça a été un long processus. Ça a été plusieurs semaines de casting. Puis finalement, on a rencontré Léo Kim à la base. Léo Kim, c'était un jeune avec genre les cheveux un peu longs, skater. Il ressemblait pas du tout à Marc. Fait que je ne sais pas trop sûr dans les photos.
Okay.
Mais on l'a rencontré. Puis ça a été comme un coup de foudre instantané parce qu'il était tellement proche de ses émotions. C'était vraiment incroyable. Ça nous a vraiment touchés. Puis, fait que finalement, on y allait avec lui, on a travaillé avec lui pendant quasiment 2 mois. J'ai vraiment eu un immense luxe pour faire ce film-là parce que je pense que c'était un film, c'était mon premier film, c'était son premier film. Fait que c'était vraiment de comme travailler ensemble une fois semaine, de répéter les scènes, de juste aussi bâtir une relation de confiance entre nous deux. Mm-hmm. Puis, puis éventuellement, il a rasé les cheveux, puis là, on a fait comme « Oh my God ». On a aussi comme fait une petite marque ici sur la joue. Je fais un signe, mais bref, c'était vraiment, tu sais, éventuellement, ça l'a pris vie, tu sais, avec l'espèce, les costumes, justement, les cheveux, puis tout, le make-up, puis ça a été le personnage, tu sais, particulièrement le personnage fictif, là, quand même, là, de Marc est né, puis ça a été, puis aujourd'hui, je pense que comme les gens, ils me parlent beaucoup de l'image de la fin dans le film, parce qu'à la fin, on présente quand même une vraie photo de Marc, puis je pense que comme la ressemblance est assez frappante, mais puis tu sais, puis pour venir sur ton autre question sur les 48 heures avant son décès, tu sais, il y a des choses quand même qui sont, je te dirais, sont environ 50% vraies, 50% de la fiction. Puis ça, c'est vraiment parce que c'était un jeune qui était en centre jeunesse, donc il était sous la supervision de l'État.
Ouais.
Et donc, il y a des choses qui sont complètement scellées à vie, que comme j'avais pas accès, ni ses parents. Donc, même en faisant de la recherche, j'ai vraiment frappé un mur, puis c'était comme, bon, mais je vais devoir recréer des choses. Ou il y a aussi des fois, c'est comme comment raconter quelque chose un peu plus rapidement. Tu sais, par exemple, la voiture, il l'a pas obtenue comme ça. Mais je voulais pas non plus comme présenter un personnage qui vole une voiture d'une manière qui est mal intentionnée. Pour moi, c'est plus une espèce d'instinct de survie. Donc, tu sais, c'est des choses comme ça que j'ai un peu comme travaillé pour comme raconter une histoire dans encore une fois, c'est un 30 minutes, on s'entend. Là, c'est comme, j'aurais aimé ça le faire en 15. Mais raconter une histoire qui est courte puis qui raconte, qui est quand même assez efficace pour le format court. C'est ça. Mais j'ai toujours dit à la famille, aux amis aussi que comme je faisais une histoire inspirée de faits vécus, puis c'est important pour moi de recréer des choses. Puis tout le monde a vraiment tout le temps été en paix avec ça. Puis non seulement en paix, mais en accord. T'es comme, t'sais, les gens aujourd'hui sont contents juste qu'on ait fait un film sur Marc. Dernière chose, pour moi, l'idée, c'était vraiment d'avoir juste au moins l'énergie de Marc dans le personnage. C'est ça qui comptait vraiment le plus.
Puis tu challenges aussi un peu ce que c'est être un délinquant. Je fais des guillemets parce que dans le film, je pense à la scène où Marc part le système d'incendie, puis là, il se fait comme sauter dessus par l'équipe de gardiens du centre jeunesse, puis vraiment quand même violemment. Puis tu sais, il n'a rien fait de super grave. Il a juste parti un système d'incendie à ce moment-là. Fait que, tu sais, je me demande, est-ce que c'est la répression comme ça, justement, là, je pense que c'est pas la bonne façon de dealer avec ces jeunes qui sont délinquants, entre guillemets.
C'est sûr que Marc, c'est vraiment une boule d'énergie qui pouvait quand même assez exploser. Donc, c'est particulier dans son cas. Je pense que c'est comme... Puis pour avoir vraiment été on a même tourné ça au Centre Jeunesse des Prairies où ça a eu lieu. Tu sais, j'ai vraiment fait connaissance avec les gens qui travaillaient là. Je pense que comme, en règle générale, les gens sont pas mal intentionnés puis c'est vraiment pas un milieu facile pour travailler là non plus. Mm-hmm. Fait que j'ai pas essayé nécessairement de faire une critique sur les intervenants ou sur la DPJ en particulier. Je peux pas imaginer c'est quoi travailler avec un client, comme il appelle, parce que les jeunes, c'est des clients. Un client comme Marc, c'est Marc, c'est quelqu'un qui détestait toute forme d'autorité, donc il pouvait exploser, il pouvait vraiment les challenger dans n'importe quelle situation, même quand on s'y attendait pas, selon moi. Donc, c'est puis mais par contre oui j'essaie de questionner l'idée de la délinquance par exemple pour moi ce que j'ai vraiment réalisé en faisant la recherche c'est que la délinquance c'est souvent un symptôme de la dépression souvent il y a des jeunes qui vont avoir des réactions qui vont être vraiment choquantes, mais on va dire, ah, mais ça, c'est un petit Chris, ça, c'est un, tu sais, fait de la merde, il fait des graffitis, il est violent, il écoute pas ses parents, ouais, mais pourquoi, tu sais, puis des fois, ça va vraiment, tu sais, surtout quand un jeune comme Marc, qui vient quand même d'une famille assez, tu sais, assez stable financièrement, puis c'est vraiment des bonnes personnes pour les avoir côtoyé longtemps, c'est comme pourquoi Marc est rendu là, c'est probablement beaucoup plus profond qu'on le pense. Puis je pense que ça vaut vraiment en fait pour n'importe quel enfant qui a des qui est comme un peu étiqueté comme un délinquant. Là.
Ouais. Puis Philippe, de ton côté, dans ton film, on voit un peu la pression qui est exercée par le cadre scolaire. Il y a quelque chose de qui peut être exigeant un peu, qui est pas fait pour tout le monde. Puis c'est un milieu qui peut devenir comme hermétique, un peu froid, que je pense que ton noir et blanc aussi, la photo noir et blanc représente un peu.
Ouais. Oui, ça c'est peut-être un peu la partie qui est plus autobiographique.
Ouais.
C'est ça, j'ai jamais été quelqu'un qui était en énorme difficulté à l'école, mais jusqu'à l'université, j'étais vraiment pas dans le top de la classe ni dans le milieu, j'étais plus vers le bas, je pense. Puis je pense que c'est n'importe qui sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire, puis tu vois les gens autour de toi, surtout rendu au cégep puis au secondaire, tu sais, appliquer pour des programmes puis vraiment commencer à se faire un plan. Il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu délaissés parce qu'ils savent pas encore qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mm-hmm. Fait qu'Alice est dans cette situation-là, puis elle a aussi la pression parentale qui vient de sa mère, qui est une avocate qui a du succès dans sa carrière, qui était très exigeante. Alors, ce qui est cool, c'est qu'elle est d'avoir une bonne relation avec un mentor qui est Benoît dans le film, son prof. Ouais. Puis pour moi, ça a toujours été ça, c'est trouver des modèles un peu dans ton parcours scolaire. Fait que non, c'est ça, il y a quand même une certaine pression, qui vient de l'école, mais c'est aussi, l'école n'est pas faite pour tout le monde non plus. Fait que l'idée, c'est d'essayer de montrer aussi, comme, je sais pas ce que je veux faire, mais moi, je suis tout le temps un peu stressé par rapport à ça, mais je sais que c'est juste pas fait pour moi, fait que c'est pas la fin du monde. Puis ouais, fait que c'est ça. Alice, elle a beaucoup de talent, puis elle a beaucoup d'intérêts, mais c'est juste pas des intérêts qui sont liés à l'école. Puis des fois, malheureusement, c'est quelque chose qui est mal vu, mais je pense pas que ça devrait l'être. Là.
Non, c'est ça. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut éviter des tragédies comme celles que vous avez vécues? C'est une grosse question. Là,
c'est sûr, c'est une immense question, mais c'est comme, je pense que ça commence à... Je pense, moi, ce que j'ai compris, puis ça, c'est super comme... C'est très technique, mais c'est le fait que, par exemple, c'est très difficile d'avoir un diagnostic psychologique sur des jeunes adolescents parce que souvent, justement, on va mettre ça sur le dos de l'adolescence, puis on va dire « Ah, ça va se régler, tu sais, ça va revenir, tu sais, comme... » Puis des fois, c'est vrai dans plusieurs cas, mais malheureusement aussi, des fois, c'est comme... C'est pas vrai, puis ils ont vraiment besoin d'aide. Moi, dans le cas de Marc, ça a été un combat pour la famille de vraiment comme obtenir cette aide-là rapidement. Puis ça a été longtemps, tu sais, j'ai des histoires où Marc s'en allait pour suivre pour avoir un suivi psychologique sur comme 3 jours, par exemple. Puis il sortait de là, sa mère venait le chercher, puis il leur disait « Ouais, votre enfant est correct. » Puis puis Marc, il sortait dans la... Il sortait de là, puis il avait volé des trucs, puis ils avaient niaisé tout le long, puis il avait challengé, puis il était bien plus intelligent qu'eux au final, on aurait dit. Fait que c'est comme... Je pense que c'est au final, c'est juste d'avoir un bon suivi psychologique chez ces enfants-là qui vont avoir peut-être un peu plus de difficultés à vraiment se... se retrouver là, à cet âge-là.
Mm-hmm. Ouais, je suis d'accord. Puis ça, pour moi, avec Félix, c'était quelque chose de différent. C'était pas quelqu'un qui me montrait vraiment des signes d'agressivité ou comme des explosions. C'était quelqu'un qui était vraiment comme un peu dans son coin, un genre de clown, un peu le comique de la gang, qui faisait des voix étranges. Puis c'était juste quelqu'un qui avait du fun. Puis je pense qu'il avait beaucoup de fun avec ses amis. Lui, je pense que c'était vraiment des problèmes qui étaient plus intérieurs, puis des problèmes aussi un peu plus familiaux. Je pense que pour lui, c'était un sentiment d'isolation. Quand tu grandis dans une famille qui a peut-être des intérêts différents de les tiens, puis des parents qui travaillent dans des milieux qui t'intéressent vraiment pas, puis des fois, c'est ça, comme on parlait de la pression académique, des fois, t'as la pression familiale qui vient là-dedans. Puis c'est ça, puis c'est beaucoup d'impulsivité dans cet acte-là. Fait que moi, je suis 100% d'accord que c'est difficile d'obtenir des diagnostics pour des ados. Puis surtout, je pense, pour des jeunes garçons, c'est quelque chose qu'on va tout le temps étiqueter. C'est que, si je suis un délinquant, si je suis un petit Chris un peu.
Ouais.
Mais c'est ça, Félix, c'était jamais ce tag-là de délinquant. C'était juste, c'est juste un petit kid tranquille. Puis c'est ça, puis on va pas s'inquiéter pour lui parce qu'il est correct, puis il a des bonnes notes, puis il a des amis. Mais c'est ça, c'est vraiment des problèmes qui sont plus intérieurs. Puis c'est difficile aussi de dire à des ados de 14, 15 ans, de comme posez-vous des questions, puis parlez-vous, puis vous devez être votre propre système de support. Ça devient jeune pour avoir des responsabilités comme ça pour tes amis. Mais ça devrait être ça qu'on devrait faire. C'est juste, c'est beaucoup demandé à des jeunes, puis c'est une charge psychologique qui est assez grosse de te faire dire que t'as un ami qui va pas bien, puis il faut vraiment que t'as vraiment un rôle à jouer là-dedans. Mm-hmm. C'est beaucoup.
C'est fait ça, alors qu'on est en train de se construire nous-mêmes.
C'est beaucoup. Fait que je pense qu'il faudrait peut-être juste avoir plus de support, je pense, psychologique pour les jeunes.
Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que vos films peuvent avoir un impact positif?
Là-dessus. J'espère. Je pense que c'est un peu la raison aussi pourquoi je pense qu'on fait ces films-là. Oui, aussi, c'est pour raconter des choses quand même qu'on a besoin de raconter, mais c'est aussi pour rejoindre les personnes qui sont peut-être qui ont peut-être déjà vécu ça ou qui sont peut-être en train de le vivre. Fait que, avec Invincible, j'ai eu de la chance de le projeter dans des grandes salles. À date, c'était vraiment comme assez fantastique, par exemple, à Clermont-Ferrand. Puis, honnêtement, les gens qui sont venus me voir après, puis qui sont venus, tu sais, qui ont déjà vécu ça, des jeunes de mon âge qui ont vécu ça avec leurs amis d'enfance ou des parents. Puis, honnêtement, ça c'est comme tout le temps. Encore une fois, c'est pour venir à la réaction des parents que j'ai eue lorsque je leur ai présenté. Pour moi, c'est la plus belle chose que je peux obtenir après le visionnement du film, c'est cette réaction-là. Fait que oui, j'espère. Puis je pense que éventuellement, nous, on parle de vouloir aller le présenter aussi, tu sais, dans les milieux scolaires, avec suivi de discussions, tu sais, même en centre jeunesse, ça serait incroyable pouvoir faire ça. C'est quand même rare là qu'il y ait des décès quand même en centre jeunesse de suicide. Je pense que à l'époque, Marc, c'était comme le deuxième. Tu sais, ça arrive pas tant que ça. C'est sûr qu'il y a, ça a vraiment marqué le monde. T'sais, ça a marqué les intervenants, ça a marqué les jeunes qui étaient là aussi. Puis je peux pas imaginer aussi pour toi à l'école, c'était comment ça devait être vraiment un choc pour tous tes amis, puis les professeurs aussi. Bref,
c'est sûr. C'était comme une vague un peu. J'ai vraiment l'impression que même en parlant des amis qui ont des petites sœurs, la troisième année du secondaire a l'air d'être une année qui est comme un peu... Il y a tout le temps des événements qui se passent. C'est un peu le pont entre l'enfance et l'adolescence. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment des moments qui sont lourds puis qui sont difficiles pour plusieurs. Puis les profs qui essaient d'aider puis d'accompagner puis d'épauler leurs étudiants là-dedans, des fois, c'est pas toujours facile. Mais... Non, pour moi, pour revenir à ta question, je pense que... Moi, j'ai pas encore projeté le film.
Non, c'est ça.
C'est samedi, fait que je vais voir c'est quoi la réaction.
C'est ta première?
Ouais, c'est ma première samedi, fait que... T'sais, j'ai pas vraiment encore pu avoir ces échanges-là. J'ai hâte de pouvoir les avoir.
Ouais.
Puis j'espère que je vais en avoir, mais... C'est ça, je pense que j'ai... En général, j'ai la difficulté à penser à la perception que les gens vont avoir de ce que je fais avant que les gens le voient.
Ouais.
J'ai la misère à me projeter dans un futur comme ça. Mais je pense que pour moi, l'important, c'était juste de montrer une réaction qui n'était peut-être pas orthodoxe, qui n'était pas nécessairement commune au suicide. Puis montrer que c'est correct, puis que toutes les réactions sont correctes, puis que c'est normal, puis c'est ton cerveau qui marche, puis qui fait comme il peut. Puis, t'sais, Alice, elle prend refuge dans un bain. T'sais, elle va prendre un bain. Puis des fois, tu as juste besoin de ça. Puis, c'est ça. Je pense que y a pas vraiment de manière exacte. Il n'y a pas vraiment un livre que tu peux lire et dire, tu sais, c'est comme ça que je vais vivre avec, avec le suicide d'un ami. C'est juste, tu dois le vivre. Puis, tu dois te... Tu dois parler à des gens, puis tu dois pas garder ça pour toi-même. Mais s'il y a un moment au début que tu dois juste être tout seul, puis avec tes pensées, c'est vraiment correct. Puis, fait que c'est ça, je pense que j'ai essayé de montrer une réaction qui était différente, puis de montrer que c'est correct, puis pas mal ça.
Puis là, est-ce qu'en ce moment, tu es à ta troisième année d'université, c'est ça?
Ouais, ouais.
Est-ce que tu es en train de faire un nouveau film ou c'est.
Ouais, ouais. Ben là, je monte un documentaire en ce moment qui est en montage, qui est aussi très. Autobiographique un peu sur le hockey amateur, sur mon expérience.
Que tu as réalisé.
Ouais, okay, ouais, cool. Ouais, exact. Puis en termes de prochaine fiction, je vais prendre un petit peu mon temps, je pense, pour, pour mon prochain projet. J'ai des idées, j'ai des petits scénarios de commencer. Mais cette fois-ci, je pense que moi puis Daniel, ma productrice, on aimerait ça le faire un peu plus comme Vincent le fait, d'avoir du financement, oui. Puis de pouvoir prendre notre temps, puis d'y aller un peu plus by the book, puis de suivre les étapes, puis d'être... capable de un peu faire de vivre de notre art un petit peu plus. Puis c'était pas quelque chose qui était vraiment possible avant de faire À la Fontaine. Fait que c'était un petit peu fallait que je fasse quelque chose, fallait que j'aie un portfolio. Puis malheureusement, j'ai pas vraiment pu le faire à l'école parce que mon film n'a pas été pris. Fait que j'étais comme j'ai besoin de quelque chose parce que sinon c'est pour ça d'acquis, t'as un peu besoin de montrer quelque chose, t'as besoin d'avoir des sélections.
T'es comme rendu un cinéaste professionnel, mais ouais. Un film en festival, là, ouais, c'est comme ça que ça marche.
C'est ça, fait que là j'ai comme c'était un petit peu mon genre de ticket d'entrée pour ensuite avoir accès à du financement. Fait qu'on va essayer de faire d'autres films bientôt, mais en prenant un petit peu plus notre temps qu'on a fait avec À la Fontaine.
Ouais, mais ça te fait une excellente carte de visite, là, comme merci, Vincent le disait. Toi, de ton côté, qu'est-ce qui s'en vient après Invincible?
J'ai tourné un court-métrage en novembre qui est un film un peu plus expérimental, qui est une fable vraiment weird. C'est vraiment, c'est le fun, honnêtement. C'est vraiment différent de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais on est en montage en ce moment, puis... On a comme eu le financement pour la production, mais pas pour la post-prod, fait qu'on attend un peu là-dessus. Puis sinon, mon gros projet, c'est vraiment, je développe mon premier long-métrage. On a eu le financement pour l'écriture, donc on est comme... Puis on était à la Forge Netflix il y a quelques semaines pendant les rendez-vous. Fait que c'est vraiment ça qui me drive. C'est un projet que j'ai en dedans de moi depuis comme environ 2 ans, puis que là je brûle de faire. Là, tu sais, j'ai juste envie de l'écrire. Fait que là, je pars dimanche pour une résidence de 3 semaines pour l'écrire comme dans un chalet, comme il faut, là, puis vraiment comme prendre bien le temps de mettre les mots sur la page. Fait que c'est principalement ça que je suis en train de développer. Puis ça, je l'écris avec Clara Milo, qui est... une réalisatrice, on le co-écrit ensemble, puis éventuellement, ça serait moi qui le réaliserais. Donc, mais c'est une super belle collaboration, c'est comme on tripe vraiment à faire ça ensemble. Fait que...
Génial, ben, on a bien hâte de voir ça aussi à Regard. je vous remercie, les gars, d'être venus à Regard le balado. Merci pour votre partage, d'avoir partagé vos histoires. C'était très touchant, puis je pense que ça porte aussi à la réflexion. Puis moi, je crois que vos films peuvent avoir un impact positif pour répondre moi-même à cette question-là.
Merci beaucoup, c'est gentil. Merci de nous avoir reçus.
Yes, vraiment, vraiment. Premier balado, personnellement. Je pense pour Vincent aussi. Là, fait que, c'est bien le fun.
Ben, je suis content que vous ayez aimé l'expérience. Je vous souhaite une bonne fin de festival.
Merci beaucoup.
Regard le balado a été enregistré au Centre d'expérimentation musicale pendant la 27e édition du Festival Regard, le festival international du court-métrage au Saguenay qui s'est déroulé du 22 au 26 mars 2023. Les épisodes ont été produits et réalisés par la généreuse équipe de Balado Boréal et n'auraient pu exister sans le soutien du Bureau du cinéma de Saguenay qu'on remercie. Merci aussi à Charles-Maxime Lemay, à la prise de son et au montage. J'envoie également toute ma gratitude aux cinéastes qui ont accepté de venir partager ces moments avec moi. Entendre toutes vos histoires a été un réel plaisir. Si vous avez apprécié ce balado, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à aller suivre la page du festival sur les médias sociaux pour ne rien manquer et être au courant de toutes nos activités.
Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à bientôt.
Une production Balado Boréal.